be waiting at the gate. And don't be afraid. Don't run. I'll not chase. Sure, my name is Helwin, and you'll be back for a taste. Behold, you're hooked. Your foot is in the stirrup. And make haste, mount the steed, and ride him well. For the white horse of Helwin will ride you to hell. To hell. Will ride you to hell until you are dead. Dead, brother. Dead. This is a revolution of the mind. Get your mind together and get away from drugs. That's the man.
Vous écoutez France Musique.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Mon nom est Alex Seller. Je suis votre chef de cabine. Au nom de notre commandant de bord, qui est aujourd'hui Anna Kremski, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous nous assurerons de votre plaisir et de votre confort au cours de ce vol de France Musique, pendant lequel nous allons survoler de nombreux paysages, dont Amsterdam, Teotihuacan au Mexique, la Cité Interdite et le couvent des Tourettes. Vos téléphones portables doivent maintenant être éteints, et ce jusqu'à l'arrivée à notre générique de fin. Veuillez attacher et ajuster votre imagination, redresser votre curiosité. Et en vue de notre décollage immédiat, préparez-vous à quelques musiques insolites. Ladies and gentlemen, my name is Alex Taylor. This is the beginning of the program. Voyageant, moi, Major, ravi de vous retrouver ce dimanche soir. Alain Kremski, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, tout de suite, une question, je rentre dans le vif du sujet. J'ai lu sur votre site que vous cherchez une ville ou une résidence pour votre collection rare d'instruments. Je vous offre de la pub, il y a peut-être quelqu'un qui... Qu'est-ce que vous avez? Vous avez vos bols tibétains?
Alors, j'ai une collection assez exceptionnelle de bols chantants rituels du Tibet. De quoi faire même plusieurs collections et faire carrément un gamelang. Beaucoup de gongs de Birmanie, une collection assez rare de bols bouddhiques du Japon, des grands bols de cérémonie taoïste qui viennent de Chine, et puis des plaques très lourdes, en plus, et très grandes, de monastères qui viennent de Birmanie. Et je dois dire, c'est vrai que cette collection, au fur des années, et avec mon travail, s'est mise à grandir. Et c'est vrai que, commençant à vieillir, ben, j'aimerais bien avoir un lieu qui serait un musée, une abbaye, disons en tout cas... un lieu architectural dans lequel je pourrais installer ces instruments et faire des rencontres de week-end par mois pour des enfants, pour des mélomanes, et avoir vraiment ce lieu qui abriterait cette collection dont je ferai cadeau ensuite à la ville si elle la maintient dans son intégralité et qu'elle la met à disposition d'autres musiciens. On peut toujours rêver.
Mais l'appel est lancé. J'espère qu'il y a peut-être quelqu'un qui a un espace, en tout cas, qui conviendrait. Je vois peut-être près de, dans un petit village, quelque part dans la France profonde, non?
C'est plutôt cette ambiance. Village. En fait, je n'ai pas encore fait de démarche pour ça. Mon rêve, en réalité, c'était, par exemple, le château de Saint-Germain-en-Laye. Parce que j'adore le parc qui est à côté avec ses lignes de fuite extraordinaires.
Vous avez parlé des lignes de fuite. Je voulais vous poser la question. C'est quoi ces lignes de fuite?
Lignes de fuite, ça veut dire que quand on se promène dans les jardins qui sont à côté du château de Saint-Germain-en-Laye, il y a une sorte de vision à l'infini qui permet aux musiciens que je suis, épris de littérature et d'architecture, de rêver. Et je me dis en plus, comme c'est la ville natale de Debussy, que Debussy s'est promené là. Et comme c'est, je sais pas, je sens l'âme de Debussy qui plane sur cette ville. Et c'est vrai que ça m'aurait bien plu, mais ça peut être un musée archéologique, ça peut être la France profonde, du moment que ça amène vraiment une richesse, hein, qu'il y a un échange.
Alors c'est plutôt votre âme de pilote qui va nous intéresser dans l'immédiat, parce que nous venons de décoller. Et nous allons poursuivre vos lignes de fuite à travers notre merveilleux monde, à commencer par Amsterdam.
Thank you.
Voilà, c'est un souvenir visiblement d'un récital de piano à Amsterdam. Donc, Alain Kremski, vous pouvez nous en parler.
Alors, c'est un prélude de Boris Pasternak, qui a très très peu composé pour piano. Quand il était jeune,
16 ans,
il avait,
c'est ça.
En fait, dans la maison, il y avait beaucoup d'artistes dans la maison de ses parents qui passaient, en particulier Scriabine, qui avait une maison à côté. Et donc, ce qui m'intéresse dans cette musique de Pasternak, et la question que je me pose toujours, comme pour les musiques de Nietzsche d'ailleurs, et de Gurdjieff qu'on abordera, pourquoi est-ce qu'un homme choisit à un moment donné plutôt la littérature que la musique ? Mais Boris Pasternak, paraît-il, a hésité très longtemps. Alors, j'avais eu la chance de jouer à Amsterdam dans cette salle mythique pour tous les musiciens qui est le Concertgebouw d'Amsterdam, où il y a le meilleur Steinway au monde. Et cette musique de Pasternak, je ne l'avais pas jouée ce jour-là, mais je l'ai jouée sur un Steinway aussi, presque aussi sublime, dans un très beau studio en Belgique. Et voilà, j'aime cette ville avec ses canaux, on l'appelle la Venise aussi, c'est extraordinaire. Mais jouer là, pour moi, c'est le souvenir, un des souvenirs les plus extraordinaires pour un musicien, parce que là, le public est extraordinaire, la salle est extraordinaire, le Steinway est extraordinaire, et on sent ce poids de la tradition. On se dit qu'il y a des tas de gens extraordinaires qui ont joué là, et je crois à cette filiation d'énergie.
C'est extraordinaire, parce que la façon dont vous en parlez de cette ville, c'est vrai qu'on revoit ces canaux, le Herrenhardt, c'est une ville qui est modeste.
Il y a beaucoup de jeunes en plus, beaucoup de jeunes dans cette ville, et en même temps, il y a quelque chose de très très intime. Donc, j'étais heureux de jouer là, c'est vrai.
Alors Alain Kremski, parlez-nous de votre amour de la musique, a commencé avec votre père à 3 ans. Vous étiez sous le piano pendant qu'il donnait ses cours.
Absolument, j'ai appris la musique avant d'apprendre à lire. Je suis né en 1940, donc c'était une période où il y avait la guerre, et la seule pièce qui était chauffée était la pièce où mon père donnait ses leçons, donc j'étais à quatre pattes sous le piano. Et la musique est rentrée comme ça d'une manière tout à fait naturelle.
Est-ce qu'il faut apprendre la musique ? Est-ce que c'est comme une langue ? Parce que j'en suis la preuve vivante. Je vis en France depuis 30 ans, mais je n'ai pas appris le français avant l'âge de 11 ans, donc c'est impossible de me débarrasser de mon accent. Est-ce qu'il faut avoir la musique dans les veines très tôt pour comprendre la musique ?
Là, vous me posez une colle, parce que je crois qu'il y a, il y a plusieurs chemins. En fait, le fait d'être doué trop jeune et d'être dans un chemin amenait l'évidence, mais cette évidence, il a fallu à un moment donné la détruire et mourir pour renaître.
Parce que vous étiez en fait voué à d'autres. Vous avez fait d'autres études.
Oui, bah, vous savez, j'avais une mère qui était assez orgueilleuse et comme toutes les mères, très très. Ayant un grand idéal pour son fils, donc il fallait que je sois à la fois Debussy, Mozart et Einstein. Voilà. Donc. J'avais ce poids sur les épaules. Il y a une légende dont je me souviens très bien, parce qu'elle est absolument vraie, je l'ai vécue. À l'âge de 7 ans, j'ai regardé une photo de la Villa Médicis, et mon père m'a expliqué que là, il y avait les lions, il y avait la fontaine, il y avait une photo de Debussy. Il paraît que d'une manière très solennelle, j'ai posé mon doigt sur cette photo et j'ai dit « j'irai ». Et c'est vrai que la Villa Médicis, la rencontre avec Balthus en particulier, a été très importante. C'est lui d'ailleurs peut-être qui m'a dit à un moment donné « bon, t'es très doué pour la musique, j'avais 22 ans, hein, j'étais très jeune, t'es très doué pour la musique, mais tu es un peu comme tous les musiciens qui viennent ici, vous êtes très fort en ce qui concerne la musique, pour le reste, vous ne savez rien ». Et je crois que ma première approche de la littérature, de l'architecture, des voyages, de la peinture, de l'idée du proche et du lointain en peinture, de l'idée aussi, même en venant avec toute son influence qui venait du Japon, c'est-à-dire le plein, le vide, les respirations, le silence, c'est venu de mes voyages et surtout de mes promenades avec Balthus dans la Villa Médicis, où je sentais quand même que Berlioz, Debussy, bien d'autres étaient venus là, se promener au même endroit. Et j'ai des souvenirs extraordinaires d'écouter les rossignols à 2h du matin en me promenant avec Balthus dans les jardins de la villa, parce que c'est quelqu'un qui n'aimait pas aller se coucher. et qui m'avait dit à l'époque, tu sais, avant de peindre, je prie toujours. Il m'a dit, mais ça, tu ne le répètes jamais. Je veux dire, ça m'a brûlé la langue pendant des dizaines d'années, je ne l'ai jamais dit à personne. Et dans ses mémoires, maintenant, il dit, avant de peindre, je priais comme Giotto. Alors maintenant, je peux le dire.
Est-ce que vous le faites vous-même ?
Non. Enfin, j'ai plus une forme de méditation qu'une forme de prière. C'est-à-dire, là, je me réfère un peu aussi à d'autres grands écrivains comme Gurdjieff, et qui disait, la prière, en fait, elle est extraordinaire, elle est efficace, elle est merveilleuse quand on la demande surtout pour les autres. Mais pour soi, il n'y a que le travail.
Alors là, deuxième morceau musical, c'est Nietzsche, compositeur oui. aussi.
Alors Nietzsche était très connu comme compositeur à l'époque, improvisateur, compositeur, très admiré par Clara Schumann, avec un problème, c'est-à-dire qu'il a fait des études musicales très poussées, il y a beaucoup de musique de Nietzsche extraordinaire. C'est quelqu'un qui n'avait pas le sens du développement, mais qui avait par contre le sens de la mélodie. Je pense que s'il avait eu le sens aussi de la construction, du développement, il aurait été aussi grand que Schumann ou Brahms. Et là, on va écouter une musique de Nietzsche qui s'appelle Orage, qui est donc une mélodie dont j'ai fait une transcription dans le même esprit que Liszt avec Schubert. Et vous verrez que le sens mélodique est absolument extraordinaire.
Il y a un côté très Schubert à cette musique de Nietzsche.
Oui. Alors Nietzsche aimait beaucoup Schubert. Il l'appelait le voyageur et mon ombre, et le voyageur et son ombre. Et ce que je trouve très beau dans cette musique, alors ça c'est voilà, il y a plusieurs aspects dans la musique de Nietzsche. Il y a cet aspect schubertien, léger et lumineux, un peu mélancolique. Par exemple, je vais lire juste un extrait d'un petit poème de Nietzsche sur le voyage. Je suis revenu fatigué comme un voyageur à qui le pays natal chante avec douceur son chant du soir. Yeux insondables, enfants mystérieux, regards, voyez comme une magie ici enveloppe tout, comme un rêve le souvenir chante son chant étrange.
C'est un côté Verlaine,
voilà,
même,
alors
je
ça, c'est
trouve.
Le, oui, c'est le côté lumineux de Nietzsche, le côté juvénile, le côté poétique. Il y a d'autres musiques de Nietzsche qu'on n'aura pas le temps de tout écouter, qui sont plus wagnériennes et qui sont beaucoup plus sombres, beaucoup plus dramatiques. Et il y a plusieurs aspects donc, des musiques de Nietzsche. Ce qui est très touchant, c'est qu'il a un très grand don mélodique. Mais comme il n'est pas passé par les mêmes écoles que les compositeurs classiques, on ne sait jamais où ça va aller. C'est un peu, je disais, comme on regarde un papillon, on ne sait pas où il va se poser, puis d'un seul coup, ça s'arrête, il y a quelque chose d'inattendu. Et ce charme de l'inattendu, c'est quelque chose qui est très touchant. En fait, c'est vraiment une musique profonde.
Alors là, pour votre... Nous sommes toujours à Amsterdam, je pense, pour le moment, dans notre escale.
Ouais,
enfin, vous pilotez...
Là, on est encore à Amsterdam, toujours grand chénouet de concert, oui.
Et c'est la musique de l'éternel retour, c'est ça ?
Alors, j'ai fait un disque avec des musiques d'Eric Satie et une deuxième partie avec des musiques que j'ai improvisées. Pour moi, l'improvisation, c'est quelque chose de très important. On oublie d'ailleurs que des musiciens comme Liszt, comme Debussy, comme Chopin, improvisaient en fait. Puis après, souvent, ils écrivaient la musique qu'ils avaient trouvée au piano, ce qui est quand même très très différent d'une musique qui est écrite intellectuellement sur table. Et donc, vous savez, j'étais dans un studio magnifique à Mol, qui est à 100 km de Bruxelles, où il y a un magnifique Steinway de concert. Et je dis souvent, quand l'enregistrement est fini, que j'ai enregistré les Borodine, les Satie, les Pasternak, les Nietzsche, les Schubert, d'un seul coup, je regarde le preneur de son, je dis, est-ce que maintenant vous m'accordez une heure? Je me laisse aller. J'oublie les études du conservatoire, j'oublie la pression, j'oublie tout. Et d'un seul coup, je vois un Alain Kremski inconnu, qui a plutôt un côté un peu Quel Jarret qui se promène en Inde avec Debussy. Et donc, j'ai fait une musique inspirée par les derviches tourneurs, complètement inattendue, parce que c'est pas mon style de compositeur sérieux, qui est plus dans la ligne Debussy, Ligeti.
Mais attendez, on part avec quoi? On vide la tête?
Voilà.
Ou est-ce qu'on part avec quelques idées quand même?
Alors, je demande qu'on baisse la lumière. Je suis dans le noir avec mon grand queue de concierge Steinway, et d'un seul coup, je me laisse aller. Et là, il y a une sorte d'énergie nouvelle qui arrive. En plus, toute la pression de l'enregistrement, c'est froid l'enregistrement, hein, les machines, la solitude, tout ça, ça s'en va. Et d'un seul coup, il y a un moment de grâce par moment. Voilà. Et après, j'ai dans la tête les gongs que je vais rajouter ou des pizzas de contrebasse que je vais rajouter. Et vous allez voir, ça donne une musique assez inattendue.
C'était inspiré par les derviches tourneurs.
Oui, c'est inspiré par les derviches tourneurs. C'est-à-dire que j'avais, en jouant, le cerveau complètement vide, en même temps cette image de cette tranquillité des derviches tourneurs en train de tourner sur eux-mêmes, qui est le contraire d'ailleurs de ce qu'on imagine de la transe. C'est au contraire un état de grande tranquillité intérieure qui permet à une énergie de passer à travers vous et de vous mettre en mouvement. Et plus l'énergie vous met en mouvement, plus en fait elle devient intense et plus il y a quelque chose de libre, complètement libre dans le mental, avec en même temps une rigueur et une maîtrise. Et je dois dire que j'ai eu la chance, quand j'ai travaillé sur le film « Rencontre avec des hommes remarquables » sur la vie de Gurdjieff, où à l'époque, pendant quelques années, c'était des musiques très difficiles, j'ai pratiqué un peu des mouvements, en particulier les mouvements des derviches tourneurs. Je me suis surpris, élève du conservatoire, en train d'apprendre à tourner pendant une heure ou deux sans perdre l'équilibre, en vidant l'esprit.
Quelle est la technique? Qu'est-ce qu'on fait?
Écoutez, je ne me permettrai pas de dire qu'il y a une technique parce que je me sens très loin des derviches tourneurs tels qu'on peut les voir à Konya. Mais c'était un apprentissage, une étude de soi, un moment de présence à soi-même, d'ouverture, de lâcher prise dans le mouvement qui était vraiment, pour un musicien assis derrière sa table, à composer derrière des papiers à musique, ça a été une expérience extraordinaire. Alors là, j'étais jeune à l'époque, je pouvais le faire.
Alors là, Alain Kremski, vous pilotez notre avion, vous avez rapidement traversé l'Atlantique, puisque nous atterrissons au Mexique, à Teotihuacan. Dites-le mieux que moi.
Alors,
Teotihuacan, c'est ça ?
J'ai eu la chance d'être invité à faire des concerts en Amérique du Sud, en Colombie, au Venezuela. Au petit théâtre de Cali, où je crois que c'est le pays en Colombie où j'ai vu les plus belles femmes au monde au mètre carré. J'avais vraiment la cervelle à l'envers en jouant. Et c'est un théâtre très mignon avec des petits diables rouges extraordinaires à l'italienne. Et puis j'ai été au Mexique, invité par le festival du centre historique de Mexico, qui était un peu l'équivalent à un moment donné du festival du Marais, c'est-à-dire un festival destiné à aider à reconstruire des lieux historiques de Mexique. Et évidemment, dès que j'ai eu une journée de libre, des amis m'ont proposé de m'emmener à Teotihuacan, qui est la fameuse pyramide du soleil extraordinaire. Et là, c'est première leçon de modestie, c'est que quand j'arrive en bas de la pyramide, je vois des escaliers, et puis je vois le ciel. Bon. Donc, je monte la première... Quand on est loin, on voit tout, mais en bas, je vois qu'une étape. Et au moment où j'arrive au premier palier, c'est pas le ciel que je vois, mais c'est un deuxième escalier. Bon. Au moment où je suis au pied du deuxième escalier, je ne vois que le ciel. Mais dès que j'arrive en haut de ce deuxième escalier, il y a à nouveau une étape. Et j'ai compris comme ça qu'il y a une vision qui doit s'approfondir. Et il fallait un certain temps, une certaine humilité pour arriver tout en haut.
Pour ma gouverne, il y a combien d'étapes en tout ?
Il y a cette étape. Il y a un texte merveilleux dans un livre qui s'appelle « Caravane » qui paraît chaque année, de Jacques Lacarrière, que j'ai bien connu, qui nous a quittés malheureusement, qui a écrit sur Borobudur les 7 étapes de l'élévation, ou les 7 icônes de l'élévation. Et c'est pareil, on retrouve cette idée de l'octave, hein, la musique, et toutes ces étapes et ces intervalles qui ne sont autres que des images d'intervalles intérieurs que l'on doit traverser soi-même, comme il y a un livre d'Annick de Souvenel sur les 10 plaies d'Égypte, qui est en fait toute une symbolique sur les 10 étapes intérieures qui correspondent à ces 10 fléaux. Qui est Moïse, le vrai être, et qui est Pharaon, le faux être. On retrouve ça dans toutes les traditions. Et donc cette pyramide m'a ramené à une humilité devant ces étapes qu'il faut poursuivre, on n'est jamais arrivé au but, et en même temps une ouverture avec quelque chose d'infini qui est magnifique.
Alors, vous m'avez déjà enlevé ma dernière question de cette émission, le plus beau coucher de soleil que vous avez déjà vu dans votre vie. Ou là, le soleil s'est levé ou il se couchait ?
Non, j'étais là en plein après-midi, donc ni levé ni couché. Mais par contre, il s'est passé une chose assez étrange. D'un seul coup, je me suis mis en haut de la pyramide en train de méditer, à penser à un certain nombre d'êtres à qui j'avais fait du mal ou j'avais été méchant. Et j'ai eu cette méditation comme ça, cette nécessité, absolument pas calculée ni prévue, d'envoyer des pensées bénéfiques et un peu des pensées de pardon à des gens auxquels j'ai fait du mal.
Là, c'est la musique de Gurdjieff, danse sacrée pour piano. Gurdjieff vous a influencé énormément.
Gurdjieff m'a influencé énormément, ainsi que Krishnamurti et des maîtres tibétains. Mais évidemment, Gurdjieff, c'est très lié en plus à la musique. Il ne faut pas oublier qu'au cours de certains voyages, il était accompagné par Thomas de Hartmann, qui était un compositeur très connu, qui a travaillé avec Kandinsky sur Le Point Jaune. Et donc, il y a une sorte d'osmose entre les deux hommes. Et d'ailleurs, c'est vrai que cette musique évoque un peu pour moi les noces de Stravinsky. Hein. Il y a ce côté russe. Et évidemment, ça s'appelle Pythagore, danse sacrée Pythagore 3. Et j'y vois une relation avec le côté géométrique, évidemment, de la pyramide et la force de la pyramide. Et par rapport à ce que j'avais dit sur cette nécessité d'envoyer des pensées d'un seul coup de très gentil à certaines personnes auxquelles j'aurais fait du mal pendant ma vie, je pense à cette phrase de Gurdjieff extraordinaire. Votre attention se pose sur celui qui est à côté de vous. Vous réalisez sa signification. Vous sentez qu'il mourra un jour, alors une compassion et une pitié envers lui se lèvent en vous, et finalement vous l'aimerez. Je trouve ce commentaire de Gurdjieff très proche de l'Évangile, et ce que j'aime dans la pensée de Gurdjieff et la musique de Gurdjieff, c'est ce lien entre plusieurs traditions, le christianisme, le bouddhisme, le soufisme, et donc une sagesse.
Alors vous racontez, j'ai lu dans la documentation sur vous, vous racontez une anecdote avec Madame de Salzmann, qui était la disciple directe de Gurdjieff, et pendant qu'elle parlait avec lui, une mouche l'a dérangée apparemment.
Ah non, ça c'était pas Madame de Salzmann, c'était Madame de Hartmann.
Ah, c'est Madame de Hartmann, pardon.
La veuve du compositeur.
D'accord, voilà, ok. Oui. Enfin, de toute façon, il y avait toujours la mouche et Gurdjieff, parce que tout d'un coup, elle écrase la mouche. Et qu'est-ce que Gurdjieff lui dit?
La mouche la dérangeait, alors elle écrase la mouche, et Gurdjieff la regarde et lui dit « Est-ce que vous pouvez la remplacer ?» Silence. Et il lui dit, enfin c'est elle qui m'a raconté cette anecdote, ne détruisez jamais quelque chose que vous ne pouvez pas remplacer. Alors je dis en riant, c'est vrai maintenant, les araignées ou les fourmis, je les détruis plus. Et je pense que c'est une pensée qui est très très proche du bouddhisme, mais qui est très proche aussi de la sagesse des chamans et des indiens d'Amérique du Nord, pour qui tout est sacré, la mesure est sacrée. Et il y a cette phrase merveilleuse de Gurdjieff qui dit « Le péché commence au-delà de ce qui est nécessaire ». Voilà, sagesse à méditer, ça me rappelle un peu les écrits de Castaneda. Alors là, nous écoutons une prière aussi de Gurdjieff et Thomas de Hartmann. Et j'aime beaucoup ce sentiment de contemplation. Alors ces musiques ont été critiquées parfois parce qu'elles ont quelque chose de très simple, oui. Mais cette simplicité, par moments, peut toucher l'âme.
C'est un peu comme Satie, non ?
Comme Satie. D'ailleurs, Thomas de Hartmann disait « La musique de Gurdjieff est très variée. La plus émouvante est celle qu'il se rappelle avoir entendue au cours de ses voyages en Asie, dans des temples peu connus. En entendant cette musique, on est remué jusqu'au fond de l'être. » Thank you.
Musique parfaite pour un dimanche soir. Voyage en moi majeur avec votre choix, Alain Kamsky. Je dois dire que vous êtes parfait parce que vous avez tout organisé, les voyages, les musiques. C'est votre schéma. Et là, vous nous emmenez après à Pékin et la cité interdite. Vous l'avez connue comment ?
Alors, j'ai été envoyé par l'organisme qui s'appelle aujourd'hui Culture France, mais qui s'appelait l'AFA à l'époque. Et j'ai été faire une tournée en Asie, en particulier deux récitals à Shanghai et à Pékin. Je veux dire que ma
rencontre...
C'était à quelle époque ? Oh, ça, c'était en 85. Et je m'en souviens comme si c'était hier. C'était un moment très, très fort. Mais je pense que la situation industrielle, architecturale en Chine, politique, n'était pas du tout la même à l'époque. Et je sais que le Panché de Lama est venu écouter mon récital à Pékin. Et comme j'avais aussi deux cantines avec des bols chantants du Tibet, il y avait une petite tension quand même. Bon, parce que les Chinois ont vite compris mon amour et ma défense de la culture tibétaine. Et alors j'ai eu quelques jours, comme quand on joue dans ces pays, on a toujours quelques jours tranquilles, on peut aussi aller visiter. Bien sûr, j'étais à la cité interdite. Et c'est vrai que j'étais absolument fasciné de ce que je pouvais percevoir directement, c'est-à-dire cette grandeur extraordinaire, cette immensité de la cité interdite, cette manière de pouvoir parcourir différentes salles, différents espaces, différents lieux, et en même temps une sagesse, une géométrie, un enseignement, une connaissance dans les proportions, dans les nombres géométriques qui sont employés, toutes les proportions. Et ça, on sent qu'il y a une sagesse que l'intellect ne comprend pas, mais qui touche l'âme quand même.
Vous êtes en train de nous dire que Dieu est dans les mathématiques. La beauté de Dieu est dans la beauté des mathématiques, c'est ça ?
Écoutez, on interrogeait un jour Hubert Reeve, ce grand astrophysicien avec lequel j'ai eu la chance de faire un jour un concert lecture à Saint-Germain-en-Laye, justement. Et je me souviens d'un article dans un hebdomadaire, on lui demandait s'il croyait en Dieu, et très prudemment, il disait à la fin de l'article, écoutez, je crois quand même que quelque part, très loin, il y a une intelligence. Voilà. Alors, je n'oserais pas dire ce mot Dieu. Une dame qui posait un jour à Gurdjieff une question sur Dieu, il dit, madame, vous visez trop haut, avec cette espèce d'ironie qu'il avait. Mais je crois, oui, je crois à une force de l'amour, je crois à une force intelligente qui passe dans la matière. Et d'ailleurs, bizarrement, toutes les découvertes aujourd'hui des grands scientifiques, des grands physiciens, sont étonnamment proches de certaines affirmations de Gurdjieff, à savoir par exemple que la matière est la même partout, jusqu'aux confins de l'univers. Ce qui change, c'est le degré de matérialité. Autrement dit, le degré d'intelligence entre une pierre, entre une fleur, entre un animal, entre un homme, entre un ange, entre un archange. Enfin bon, là, on rentrerait dans des échelles qu'on retrouve dans toutes les grandes traditions. Je crois à cette intelligence. Et quand les hommes, les architectes l'aperçoivent et la connaissent, évidemment, ils la transcrivent en monument de pierre pour nous apporter aussi une connaissance. Il faut ne pas oublier que l'art sacré travaille avant tout sur les impressions que nous recevons. Nous recevons trois nourritures, la nourriture habituelle pour manger, l'air que nous respirons. Mais moi, ce que je cherche, en tout cas, dans la musique que j'écris, et tous les musiciens qui approchent l'art sacré, cherchent à travailler sur les impressions, c'est-à-dire un parcours d'impressions qui fasse que l'auditeur est touché dans son unité et des associations mentales sont à un autre niveau.
Donc là, c'est Borodine dans les steppes de l'Asie centrale. C'est une musique que vous avez transcrite.
Voilà, c'est une musique que j'interprète également. Et donc, j'ai fait une transcription, un peu dans le même esprit que Liszt faisait avec Wagner ou Schubert, de cette grande fresque dans les steppes de l'Asie centrale de Borodine. Alors là, évidemment, le pianiste et compositeur que je suis, les deux qualités s'ajoutent. C'est-à-dire qu'il faut avoir un imaginaire. Donc, il y a l'appel de la clarinette au début, le corps qui répond, les pas des chevaux avec les contrebasses, le thème, etc. Bon. Et il y a toute une manière de retrouver l'idée du proche et du lointain, et pas seulement de jouer la musique comme ça, mais d'essayer de rentrer vraiment dans l'image et dans l'évocation.
Vous avez rencontré pas mal de jeunes pianistes à l'époque. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui même de tous ces talents? Parce qu'il y a énormément de Chinois qui jouent de la musique classique. Ce sont les orchestres de nos lendemains.
Écoutez, il y a beaucoup de fabuleux jeunes pianistes et moins jeunes. Beaucoup sont extraordinaires. Et puis, de temps en temps, il y en a un qui a ce petit quelque chose en plus. Je me souviens, il y a une vingtaine d'années, j'ai écouté un pianiste qui s'appelle Rustem Seydkulov. C'était chez Magne. Il y avait une journée comme ça, porte ouverte. Dans son grand atelier, il y avait des tas de pianos. Il y a eu beaucoup de musiciens qui ont joué, chacun un quart d'heure, et je te joue vite, et un Chopin, et tout ça. Et puis, Rustem Seydkulov est arrivé, il s'est mis à jouer. J'ai regardé ma compagne de l'époque, j'ai dit, tout va celui-là, il joue comme Richter, tu verras, dans 20 ans, on parlera de lui. Et il a gagné le concours de Master de Monaco, donc il n'est réservé déjà qu'aux pianistes qui ont tous gagné un concours international. Mais surtout, ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec une technique à la Horowitz, à la Richter, il y a une âme profonde, même dans la rapidité. Et c'est ça souvent que les pianistes oublient, la virtuosité, la rapidité, oui, mais s'il n'y a pas une âme qui porte le tout, à quoi ça sert?
Ensuite, vous pilotez toujours notre avion et nous sommes revenus en Europe parce que là, nous sommes au couvent des Tourettes. Si oui, exactement, c'est près de Lyon.
Alors, le couvent des Tourettes est à 20 km de Lyon et c'est un couvent construit par Le Corbusier, assez extraordinaire. Et j'ai eu une rencontre avec l'école d'architecture, les étudiants de l'école d'architecture de Saint-Étienne. Et j'étais à la croisée de toutes les grandes allées intérieures de ce monastère. Et à chaque heure, je devais rythmer par rapport à la lumière, avec des musiques différentes. C'était une expérience extraordinaire. À l'époque, j'avais un grand portique avec des cloches et des gongs, et puis un piano, et j'ai joué toutes sortes de musiques.
Et là, on va les entendre, parce que je suis un peu déçu pour le moment, on n'a pas entendu vos fameuses cloches.
Alors j'ai amené un disque avec les bols tibétains. Si on a le temps, on passera un petit bout des cloches, mais il faudrait que le voyage dure plus longtemps.
Parfait pour nos auditeurs dont beaucoup écoutent dans les embouteillages, dans un état de stress le dimanche soir pour rentrer chez eux. Et cette musique nous apaise totalement. Là, il y a deux pianos, c'est ça?
Alors, c'est une commande de Radio France qui a été faite par Armand Gault, merveilleux pianiste d'ailleurs, qui a fait une intégrale d'Eric Satie. Et après, j'ai fait une version de piano plus des gongs. L'idée, c'est qu'il y a un piano qui est dans ce qu'on appelle le destin, le continu, avec cette goutte d'eau. Ce serait même un peu proche peut-être des minimalistes américains, j'aime beaucoup Severich. Et le deuxième piano, lui, est au contraire dans la liberté, dans l'inattendu, des sonorités de cloche, où on sent que je viens de Debussy et de Messiaen. Et donc il y a cette confrontation entre le déterminé et l'indéterminé, le continu, le discontinu.
Après, vous avez un extrait, ça s'appelle « Contemplation, prière secrète sur le nom très saint de notre Seigneur Jésus-Christ ».
Alors c'est le même disque d'ailleurs, donc « Exil », là on est dans « Méditation sur le temps, l'espace et la mémoire », ce qu'on était en train d'écouter. Et alors on va écouter maintenant le commencement d'une autre pièce qui est effectivement sur le nom de Jésus-Christ dans ma tête et qui n'est avec que des bols chantants du Tibet et des gongs, avec cette idée que la mélodie parcourt des degrés et on va de plus en plus vers des notes de plus en plus hautes, comme si on pouvait, dans un exercice de yoga, suivre l'énergie qui monte un peu dans la colonne vertébrale ou de partie du corps.
Vous en faites du yoga ?
J'essaye de pratiquer la méditation, mais ça, j'en parlerai pas trop. Restons modestes. Mais c'est important de sentir qu'on peut s'ouvrir à une énergie d'une autre qualité.
Là, du coup, je suis très content parce que j'ai eu mes cloches et mes gongs. Le titre, c'est « Contemplation, prière secrète sur le nom très saint de notre Seigneur Jésus-Christ ». Donc, c'est vous-même.
C'est-à-dire qu'avec les bols chantants du Tibet, qu'on a vraiment des vibrations très particulières et qui évoquent aussi pour moi la coupe du Graal, ça permet une rencontre entre les grandes lignes du christianisme et du bouddhisme. Et je pense que c'est essentiel de ne pas être sectaire et d'être ouvert à tous les courants.
Nous allons terminer ce voyage avec une escale à Vérone, la merveilleuse église sur la tombe de Juliette, c'est vous qui le dites. C'est encore un souvenir d'un récital.
Oui, absolument.
Alors racontez.
J'ai beaucoup aimé cette ville. D'abord, l'Italie, pour moi, c'est, je crois, comme pour beaucoup d'auditeurs, on est chez soi, c'est une deuxième patrie. Et donc, j'avais fait là-bas un très, très beau concert avec les cloches et les gongs, avec un public italien extrêmement enthousiaste. Mais là, pour évoquer Vérone, j'ai quand même cette relation entre l'amour et la mort. Et donc, je vous propose d'écouter, toujours tiré de ce CD Satko, « Berceuse sur le fleuve Térek », dont la première phrase Enfin, là, c'est une transcription pour piano. Il me semble qu'il y avait une chanson avec Marina Vladi, d'ailleurs, sur cette mélodie. Et la première phrase, c'est « Que de larmes, mon enfant, quand tu pars ».
Donc, Alain Kremski, c'est vous qui avez arrangé cette berceuse « Cosaque, mon enfant, que de larmes quand tu pars ». Ça vous rappelle quel genre d'ambiance ?
Alors, c'est une berceuse cosaque. Et oui, je dois dire, ça me rappelle un souvenir douloureux, puisqu'il y a 4 ans, j'ai reçu un téléphone du Canada me disant que mon plus jeune fils, qui était un merveilleux saxophoniste, était mort sur une route lointaine au Canada dans un accident de voiture. Et immédiatement, la vie, évidemment, n'est plus jamais comme avant, mais j'ai décidé de traduire ça par beaucoup de lumière et par beaucoup d'écoute de beaucoup de jeunes musiciens que j'essaye d'aider en leur trouvant des concerts, en les conseillant. Et j'ai écrit à la mémoire de mon fils une œuvre qui s'appelle « Anima Christi », qui est en même temps une œuvre pour le centenariste, le bicentenariste, qui est une commande d'un chœur extraordinaire, qui s'appelle « Les tempéraments en variation », dirigé par Thibault Lamkang. Et je trouve assez extraordinaire qu'un chœur qui est pour moi semi-professionnel, un chœur qui a fait beaucoup de beaux disques et qui a enregistré beaucoup de belles musiques romantiques, me commande une œuvre pour chœur mixte, en même temps bol chantant du Tibet. Et je vais quand même vous dire
le
poème qui m'a inspiré, Anima Christi, donc un poème très ancien du XIIIe siècle. Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. Eau du flanc du Christ, lave-moi. Passion du Christ, conforte-moi. Ne permets pas qu'on me sépare de toi. À l'heure de la mort, appelle-moi. Et ordonne-moi de venir à toi. Et donc, je rappelle en plus que mon fils était né un 22 octobre, exactement comme Liszt. Et on a donc créé cette œuvre au Moulin d'Andé, hein, au lieu de la musique, le 3 avril 2011.